Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Patrick Daquet, que nous retrouverons tout au long de cette émission, fait partie de ces hommes qui vont jusqu'au bout de leurs convictions. Patrick participe activement à la renaissance du chamanisme occidental. Lui-même chaman, il nous explique qui sont ces hommes et quelle est leur place dans nos sociétés actuelles. Je l'ai rencontré lors du Festival du chamanisme en France, organisé par le Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions Ancestrales, dont il est le fondateur.
Le Cercle de Sagesse de l'Union des Traditions, puisque son objectif c'est d'unir les traditions différentes, s'est constitué il y a 7 ans, suite à un rêve que j'ai fait il y a 8 ans. J'étais au Canada et j'assistais à une réunion amérindienne qui avait lieu tous les ans, mon premier week-end d'août, à Maniwaki. J'avais l'occasion de rencontrer tous les peuples autochtones du nord de l'Amérique. Et voilà, j'étais heureux. Je participais, j'ai été invité, bien reçu. Et puis, la nuit, j'ai fait un rêve absolument incroyable. Comme quoi, il fallait faire ça en France. Pas un rêve, vous savez, ces rêves qu'on a tous les jours, un peu ou souvent, surtout nous, hein, on est des grands rêveurs. Non, c'était plutôt un rêve de l'ordre de la prophétie, bouleversant, ce genre d'expérience qui change un homme et qui change une vie. On en a tous eu peut-être un ou deux dans sa vie. C'est de cette nature. J'ai eu des précisions dans ce rêve et je suis rentré en France et j'ai commencé à me mettre en marche. Et j'ai contacté les quelques chamans qu'il y avait en France. Il n'y en avait pas beaucoup, il faut dire des chamans historiques. Et nous sommes réunis quelques mois plus tard, une douzaine d'hommes et de femmes, dans le Haut-Jura, la frontière suisse. Et nous avons créé ce cercle de sagesse qui est devenu plus tard de l'union des traditions ancestrales.
Tu connais tout le monde ici?
Je connais, oui. Ouais. Des frères et des sœurs, non? Je viens de rentrer à ces deux jours de Mexique. Aussi en une cérémonie de 10 jours de danse, la danse du soleil, et une des dons du circuit, on dirait. Je viens d'aider à Ulysse qui va faire le Temazcal. Il m'a demandé de que je collabore avec lui.
Tu vas faire du quoi, du Temazcal?
Temazcal.
Le Temazcal, c'est quoi?
Le Temazcal, c'est un outil de sudation. C'est des tons bas donc, qui a un trou dedans. De donde el trou se mete de piel trecho y de lo. Le duo fue el elemento por crear la ambiance de la renaissance y de la muerte. Ça, c'est le temazcal.
C'est la hutte de sudation, c'est la même chose?
Oui, mais en Mexique, elle l'appelle temazcal.
Donc là, on a beaucoup de chance, en fait, parce que tu as réuni sur ce festival des traditions du monde entier. Il y a les 5 continents qui sont représentés, aussi bien l'Océanie que l'Asie, que l'Afrique, que l'Amérique du Sud et même l'Europe. Tu as réussi à réunir des gens qui viennent présenter leur tradition. Tu as appelé ça la rencontre chamanique. Donc j'aimerais juste que tu me définisses ce que c'est qu'un chaman pour toi.
Un chaman, c'est un homme de sagesse qui existe quand il y a un clan, quand il y a une tradition. On ne peut pas être chaman dans sa cuisine au bord du périphérique, même si la personne qui se sent dans cette situation-là est certainement quelqu'un de très bien. Ça peut être quelqu'un de sensible, qui a des dons de guérison, qui a des qualités. Mais un chaman, c'est d'une autre nature. Il est toujours issu d'une lignée, d'une tradition, d'une culture forte. Et le chaman ne peut pas se désigner lui-même. Le chaman est désigné par ses pairs. Alors selon les traditions, selon les pays, selon les continents, il y a différents signes qui vont manifester que c'est un chaman. Dans les traditions chamaniques, où tout le monde est dans le chamanisme, comme en Mongolie, il y a des signes de reconnaissance à la naissance, il y a des, il y a des, il y a des clins d'œil qui sont faits, où le chaman du village va avoir la vision que tel nouveau-né est destiné à cette fonction. Mais dans nos pays, bien entendu, européens, où le chamanisme s'est caché, il n'a jamais disparu. Il y a toujours eu des lignées, comme en Bretagne, les lignées celtiques, dans les pays basques, des identités culturelles très fortes ont gardé leurs traditions secrètes parce qu'il fallait se protéger. On était brûlés, on était mis en prison, nos ancêtres ont vécu les pires choses, donc il fallait se cacher.
Pourquoi ? Est-ce que c'est la différence qui effraie ? Pourquoi est-ce que les chamans étaient persécutés ici en Europe ?
L'Europe a été un laboratoire pour éradiquer, pour massacrer, pour l'Inquisition. Et quand ils ont réussi, croient-ils, à éradiquer l'ancienne sagesse pré-chrétienne, alors ils ont exporté leur savoir-faire en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, enfin un peu tout dans le monde, pour imposer à une religion dominante qui en réalité était une manière de prendre la propriété sur les âmes, et le pouvoir politique n'étant jamais bien loin pour prendre la propriété sur les êtres humains. Et cette manière de faire, c'est le passé, et aujourd'hui tout se réveille et les chamans sont en train de refleurir dans le monde entier, car c'est un peu comme une braise, je dirais pas sous les cendres, parce qu'il n'y a jamais eu la sagesse ancestrale n'a jamais été en cendres, mais les braises sont en train de créer des feux virulents, forts, puissants, qui à mon avis vont changer la face spirituelle du monde dans les 30 ans, 40, 50 ans qui viennent.
Alors tout le monde a un bâton, mais vous n'avez pas de bâton. Il est où votre bâton ?
Ah voilà, il était.
Je l'ai lâché pour aller demain libre.
Voilà. Alors c'est quoi la symbolique du bâton ? Pourquoi est-ce que des gens ont des bâtons, d'autres en ont pas ?
On est là pour assister les gens, surtout pour les guider, les diriger vers les ateliers, enfin les guider un peu dans tout ça et que tout se passe bien.
L'originalité, c'est qu'il y a ici quand même des gens qui viennent du monde entier, qui représentent différentes traditions, hein, je crois des 5 continents. Est-ce que tu peux un peu me parler des origines de ce festival ?
L'organisation, c'est des chamans, des guérisseurs qui sont réunis pour faire connaître un peu tout ça.
Bon, donc on rentre sur le site, on franchit la porte entourée de jolis petits rubans. Et quand on avance sur le site, on entend des tambours. Hein, voilà, j'imagine que vous les entendez aussi. Donc là, on arrive devant la yourte du tambour de Gabriel Oco. Donc on va s'approcher, la porte fermée. Apparemment, il y a un rituel à l'intérieur, donc on va juste tourner autour. Et on va profiter de cette ambiance.
La phase spirituelle, c'est quoi ? C'est qu'en chamanisme, il n'y a pas d'hiérarchie. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de pape chaman, il n'y a pas d'évêque chaman. Le chaman est issu d'un clan, comme je vous l'ai dit. Et il ne peut pas y avoir de chaman s'il n'y a pas de clan. Et le clan, le chaman n'a pas une fonction hiérarchique dans le clan. Il a une fonction comme un menuisier, comme la personne qui fait de la nourriture, mais il n'est pas plus important ni moins important. Il est respecté, parce qu'il est l'intermédiaire entre les esprits, mais c'est l'être le plus ordinaire qui soit. D'ailleurs, c'est une des fonctions chamaniques. C'est l'objectif des chamans, c'est d'accéder à l'ordinarité. Chez les Indiens, on dirait que c'est la dissolution de l'ego. Le chaman, on parle pas comme ça, on dit être ordinaire, c'est-à-dire être accessible à tout le monde, le plus possible, être disponible. D'ailleurs, à cet effet, quand une personne du clan va transférer l'excellence sur le chaman peut avoir des réactions très bizarres. Il peut devenir fou, coléreux, avoir une attitude complètement incompréhensible. En réalité, il va casser le transfert, comme on dirait aujourd'hui, pour que la personne retrouve sa propre souveraineté et ne délègue pas la perfection sur les autres, sur le chaman. C'est une école difficile d'un certain point de vue, parce que les humains vont toujours chercher, attendent toujours la solution du Messie, de l'homme providentiel, de l'homme politique qui va régler les problèmes. Le chaman, lui, sait que non, chaque individu doit retrouver sa propre souveraineté. Et d'ailleurs, un clan qui se porte bien n'est pas un clan qui a un bon chef, mais c'est un clan qui est composé d'êtres humains libres, droits sur leurs jambes. Ça, c'est la communauté chamanique.
Om Tare Tutare Ture Soa. Le mantra du Bouddha de la médecine.
Alors, on voit bien que ces pouvoirs religieux, les chamans sont extrêmement dérangeants puisqu'ils mettent en cause le pouvoir totalitaire hiérarchisé puisqu'on a fait croire aux humains. On n'imagine même pas aujourd'hui que quelqu'un le fasse parce qu'on le traiterait de secte, il serait stigmatisé sur tous les médias. Quelqu'un qui dirait que on va aller au paradis si on est baptisé, qu'on ne va pas au paradis si on n'est pas baptisé. Les inepties s'étendent, par exemple. Ou qu'un prêtre est le seul intercesseur entre Dieu et les fidèles. Enfin, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Et ça marche encore, ces fadaises. Alors, le chaman était toujours là pour, quelque part, mettre en cause ce pouvoir hiérarchique et totalitaire qui asservit l'individu. Et évidemment, il fallait les détruire. Il fallait qu'ils ne soient plus là pour créer un contre-pouvoir d'un certain point de vue.
Voilà, la question c'est que là on est donc sur le festival qui s'appelle, organisé par Cercle de Sagesse. On retrouve différents manifestes du Cercle de Sagesse chamanique. Tu peux m'en parler de cette association ?
J'adore ce qui est marqué dans cette déclaration. Et c'est une déclaration qui parle réellement avec l'esprit de la fraternité. On est dans une république sur le plan, je dirais, géopolitique. On ne va pas refaire l'histoire de la France. Mais je dirais la particularité, c'est qu'il y a un mot qui pourrait être mis en pratique tout de suite, mais là, avec la vitesse même de la lumière, et plus encore, je pense, c'est la fraternité. C'est une histoire de cœur. Et je pense que c'est ce qui manque le plus actuellement à notre République, mais aussi au territoire européen, puis à toute la planète. Et tous ceux qui se connectent de manière spontanée avec cette notion de fraternité, qui sont dans le cœur, eh bien, font la liaison avec cette liberté qui est malmenée, et puis cette égalité qui est obsolète, parce qu'on ne sait pas qui est égaux avec qui, mais d'égal à égal, je pense qu'on peut vérifier que c'est la fonction de la fraternité qui nous met en égalité.
Ça se comprend quand on regarde le système, on est éduqué sur la compétitivité et pas sur la complémentarité. Donc pour accéder à cette fraternité aujourd'hui, quand on est vraiment là pour être meilleur que son voisin de classe, hein, t'as eu combien ? J'ai eu 14, ah ben moi j'ai 16, je suis meilleur que toi.
Alors moi je peux le prouver parce que j'étais nul à l'école, mais je pense que on nous constipe à l'école la plupart du temps, donc le cerveau il peut pas bien s'aérer, donc on n'arrive pas à communiquer en vérité, et la spontanéité est brassée par l'exigence d'un programme. Et donc je pense que le véritable programme, c'est ce qu'avait découvert entre autres Maria Montessori en regardant des pauvres enfants là qui découvraient les choses et ils se l'appropriaient avec tout le privilège de la spontanéité, d'une intuition qui n'était peut-être pas clarifiée par le mental, mais qui s'élaborait par le champ de savoir et de connaissance. Et donc je pense qu'il faut retrouver cette spontanéité dans le chamanisme et dans, je dirais, le manifeste du cercle de sagesse chamanique. On a ce rappel à toute cette fonction de ceux qui avaient pas nécessairement le privilège du diplôme, mais qui étaient guérisseurs dans nos campagnes, ou tous ceux qui ont été brûlés aussi, hein, je le rappelle quand même, historiquement quand même, hein, tous ceux qui avaient la taxation d'être sorciers ou sorcières, et parce qu'ils connaissaient trois plantes, ils savaient peut-être mettre un membre, puis ça se répétait dans le temps, donc il y avait des jalousies, puis ils étaient condamnés, bien sûr, comme la condamnation a été irrémédiable, ben, malheureusement, ils mouraient. Et donc je pense que le chamanisme ancestral aujourd'hui, qui a été remis en exercice entre autres pour notre Europe avec Patrick et Lise, je pense qu'il se privilégie pas, mais il se met en harmonie réellement avec l'ensemble de toutes les formes d'expression des peuples premiers. Alors même si le mot chamanisme est spécifique à la période et puis à la géopolitique de la Sibérie, ben, ce terme maintenant est devenu galvaudé et je pense qu'il faut l'introduire avec son sens d'aujourd'hui, très fraternel, entre le respect des lois de la mère nature. Alors même si c'est un peu redondant et puis on veut nous faire un speech sur les lois de la nature, il y a des lois de la nature, il suffit d'apprendre à mettre une semis dans la terre et puis regarder ce qui se passe. En fonction du climat, on va bien voir qu'il y a des lois. Donc après, on peut enfermer ça universitairement, mais je pense que dans le contact direct, il y a des lois. Et je pense que... Et des principes. Mais ce n'est pas des principes moraux. C'est une éthique spontanée, parce qu'il y a des évidences, quoi. Si on n'est pas dans la compétition, on est dans la collaboration, on est dans l'émulation, on est dans la créativité, on est dans le sourire, on est dans la joie, on est dans le partage. Bah, c'est ça, on a besoin de ça, on n'a besoin de rien d'autre, quoi. Voilà, si les écoles étaient comme ça, ben, je pense qu'on arrêterait de se taper dessus, et puis il n'y aurait pas de frontières, au sens faux du terme. Et je pense qu'il y a des frontières, mais elles sont naturelles. Hein, quand il y a un paysage qui change, ben, il y a une frontière. Et puis avec le chamanisme, on sait qu'on peut traverser un espace, et d'un espace à un autre, il y a une frontière, mais c'est une frontière qui est privilégiée par un champ vibratoire. Et on peut le ressentir si on est un petit peu attentif, si on n'est pas dans la projection, dans l'interprétation, dans le scientisme ou dans la croyance, on peut ressentir ça avec notre corps. Simplement de placer sa conscience dans la région du cœur, à l'arrière de son dos, eh bien, ça nous fait vraiment modifier notre perception et ça nous met dans un état d'humilité, de douceur, de tendresse. Et si on regarde le monde comme ça, je pense que même on peut atteindre un état privilégié comme Maître Shiva avec l'Aïkido. La violence, elle s'arrête. Et je pense que ça, c'est puissant. C'est puissant parce que c'est de l'amour en direct.
Il existe en France une organisation unique au monde qui s'appelle la Miviludes et qui dépend du service du Premier ministre. Nous avions deux attitudes. La première, c'était d'avoir le mépris et de l'ignorer, puisqu'effectivement, eux ne savent pas ce que c'est et qu'ils se fient uniquement à des enquêtes extérieures liées à quelques incidents ici ou là mineurs et qu'ils en tirent des conséquences pour des raisons que j'ignore. Et la deuxième attitude, c'était au contraire d'avoir une relation avec eux pour pouvoir communiquer. Le Cercle de Sagesse a choisi la deuxième solution. Nous sommes rentrés en relation avec les services du Premier ministre de Matignon et nous avons rencontré le service de police et le service de la gendarmerie qui s'occupe de sa répression des fraudes et brigades des mœurs. Et nous avons eu des entretiens très fructueux. Nous avons pu communiquer, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas liberticides, qu'ils étaient là pour faire régner la loi et la loi de la République. Et nous leur avons expliqué qui nous étions et ce que nous faisions. Ils nous ont invités à rédiger un code éthique, ce qui était une bonne idée pour pouvoir faire un peu le ménage, disaient-ils, dans ces mouvements quelquefois un peu éparpillés. Et ils n'ont pas tort, il y a des gens qui se décrètent chamans et qui font n'importe quoi, ça c'est très clair. Donc nous n'avons pas suivi leurs conseils, mais on les a pris en compte, on a réfléchi, on a décidé de sortir un code éthique qui s'appelle le Manifeste du chamanisme. Et qui est distribué largement, nous en avons tiré des milliers d'exemplaires, qui précise exactement quelles sont les fonctions, quelles sont les limites, quelles sont les attitudes que véhicule le chamanisme. Vous n'empêcherez jamais une sorte de charlatan aventurier qui veut se faire un peu d'argent facile de se réclamer de telle ou telle chose, y compris du chamanisme. C'est pas de ça que je parle, parce que dans ce cas-là, c'est vrai pour les assureurs, les banquiers, les hommes politiques, les... Quant à l'injure de secte, elle est facilement maniée en France, ça c'est spécial à notre pays, car ce n'est pas vrai ailleurs du tout. Dès que nous sommes différents, dès que nous avons une spiritualité différente, dès qu'on s'habille différemment, dès qu'on pense différemment, on a fait circuler l'idée que le mot secte est l'injure suprême. Et d'ailleurs, tout le monde se jette le mot de secte ou de gourou à la tête en France. Si on veut déstabiliser quelqu'un, il suffit de dire que c'est un gourou et qu'il est dans une secte, voilà. D'ailleurs, il suffit de s'habiller en blanc, de faire du yoga, d'être végétarien, et on est déjà catalogué par le bon peuple comme une secte. Mais ce bon peuple ne disait jamais ça il y a 20 ans. On ne disait pas secte. Moi, je me souviens, non, c'était... Ou dans les années 68, tous les aimés, puisque je suis de cette génération-là. C'est un mot qui est relativement nouveau et qui a été manipulé parce qu'il y a eu une ou deux histoires douloureuses du temple solaire, en Amazonie, il y a une trentaine d'années. Et effectivement, les hommes politiques... et les religieux ont intérêt à stigmatiser tout ce qui peut les remettre en cause, et c'est facile, et on a réussi dans l'opinion publique à faire passer l'idée que tout ce qui était différent était sectaire. Une éducation différente est dangereuse, une attitude différente est dangereuse, mais ça c'est lié à notre pays, je vous assure, je voyage beaucoup. C'est pas du tout la même manière de voir. Si on voit aux États-Unis, même au Canada, les différences attirent l'intérêt. C'est quelque chose qui est spécifique à notre pays.
Alors c'est devenu un moyen facile, en fait, pour écarter ce qui dérange, tout simplement, en stigmatisant les gens dans une case.
Exactement. Et ça vient de notre histoire. La Révolution française a coupé la tête des curés et des aristocrates. Et la religion qui était insupportable, omniprésente, injuste et qui confisquait les biens du peuple à leur profit, eh bien, les Français, qui sont des Gaulois un peu belliqueux, ont trouvé la solution la plus rapide, c'est de couper la tête. Et par conséquent, la spiritualité a été étroitement liée à la religion. Ensuite, la franc-maçonnerie est arrivée au XVIIIe siècle. Et au XIXe et XXe siècle, début XXe siècle, nous sommes arrivés à une situation où les francs-maçons étaient majoritaires dans les assemblées nationales, Sénat, et on disait volontiers « à bas la calotte, à bas les curés ». Et il y a eu un mouvement avec Jules Ferry, tout à fait, d'ailleurs, il y a un côté très positif, hein, l'école pour tous, etc. C'était la République, il y a des valeurs positives, mais à la fois arc-bouté sur la séparation du spirituel avec l'État. Et du coup, il y a une grande confusion des esprits et il y a des dogmatiques violents, anti-religieux. Et comme la religion est affaiblie et qu'ils se sont aperçus qu'ils en avaient besoin un petit peu quand même, tous ces mouvements qui ont poussé dans les années 70, et c'est certain que cette pulsion anti-religieuse, et qui en réalité est anti-spirituelle, c'est insidieusement infiltré, si on peut dire, dans le pouvoir, et fait qu'on s'est mis faire la chasse, si on peut dire, à tout ce qui est différence dans la spiritualité. Mais nous, en ce qui me concerne, puisque vous posez une question sur le chamanisme, nous ne sommes pas trop concernés par ça. Oui, une personne ignorante, si je suis en blanc dans une cérémonie, va tout de suite dire « c'est une secte ».
Ou un gourou.
Ou un gourou. Alors qu'en Bretagne, dans mon pays, c'est moins le cas, puisque les druides font partie de la culture. Et quand on est en blanc, avec une robe et une serpe en or, tout le monde va dire « c'est un druide ». On ne va pas dire « c'est une secte ».
Dit et on le ressent, aujourd'hui les choses sont en train de changer, le modèle est en train de s'effriter, on ne peut plus continuer à tout axer nos valeurs sur le matériel et la croissance, donc peut-être que le côté spirituel va reprendre le dessus, en tout cas je l'espère. Mais ce que je voulais savoir aussi Patrick, c'est est-ce qu'on est chaman ou est-ce qu'on devient chaman?
Moi je pense qu'on est chaman, je pense qu'on ne peut pas le devenir. Alors par contre, on peut devenir ce pourquoi nous sommes nés. J'ai toujours été habité par la spiritualité, j'ai toujours été quelqu'un qui voyait des choses que les autres voyaient et pas, qui sentait les choses que les autres ne sentaient pas. Je suis créatif, je suis quelqu'un d'ouvert. C'est certain que jusqu'à l'âge de 7 ans, je n'étais pas à l'école puisque mes parents m'ont mis à l'école très tard. Il n'y avait pas de maternelle dans les années 50, hein, je suis né, il y en avait peu. Pour faire très vite, ma première initiation, je l'ai eue à l'âge de 18 ans et après ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Et en ce qui concerne ma lignée celtique de sauvetage, je l'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années et où j'ai été initié à cette lignée où on m'a transmis le devoir et la lourde charge à mon tour d'initier, de continuer cette lignée celtique qui perdure depuis des siècles et des siècles, je ne sais pas, ou des millénaires peut-être. En tout cas, elle n'a jamais été sans interruption, m'a-t-on dit. Maintenant, j'en suis persuadé, mais il n'y a pas de preuve écrite, la tradition chamanique est orale.
Parce que le chaman, c'est quelque chose, le terme vient plutôt des steppes, hein, de la Sibérie. En Amérique du Sud ou en Afrique, on parlera peut-être d'un autre vocabulaire. Mais est-ce que le chaman a une couleur de peau? Est-ce que le chaman a un pays? Est-ce que le chaman a une frontière? Ou est-ce que c'est les mêmes? La lignée, la même racine, la même origine pour tous, quelle que soit la partie géographique dans laquelle on évolue?
Le chaman n'a pas de couleur de peau. Si vous voulez, le chaman, le mot chaman, vous avez raison, il vient de Touva, il vient du pays de Touva. C'est un mot tout gourte qui veut dire l'homme qui sait, quelque part, enfin l'homme de connaissance. D'ailleurs, vous avez une représentante du pays de Touva. On peut dire que c'est une chamane. Nous, on n'est pas des chamanes. Moi, je suis un déo. Mais le mot chaman s'est tellement imposé au niveau planétaire qu'il regroupe quand même une réalité. Et cette réalité, eh bien, qui nous rassemble tous, effectivement, fait que on nous appelle chaman et on accepte maintenant, ça va. Pendant des années, on l'a refusé, mais aujourd'hui, on l'accepte puisqu'il faut bien qu'on nous désigne. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui se sentent en empathie avec le chaman. Alors, ils ne savent pas comment faire, des Occidentaux, ils sont un peu perdus, ils n'ont pas eu d'initiation, ils ne savent pas où s'adresser, etc. Alors, d'un seul coup, ils vont faire un stage à l'étranger ou un voyage, ils vont revenir et ils sont chamans. Ok, il y en a des très bien, mais bon, ça risquerait, si ça devait ce mouvement s'étendre, de discréditer la puissance, le sérieux, les racines qui sont liées au chamanisme. Donc ça a été en parallèle de mes initiations chamaniques, je me suis intéressé à tout ce qui peut être évolution de la conscience, tout ce qui peut être thérapie. Ça m'a beaucoup apporté, pour moi déjà, de travailler sur moi, mais en plus, j'ai vu par la suite que toutes ces thérapies finalement étaient la continuité d'une sagesse ancienne et que toutes ces thérapies existaient déjà dans les pratiques chamaniques, alors qu'on n'appelait pas thérapie. Ça va être des danses, ça va être des chants, ça va être des états de transe, mais quelque part on s'aperçoit que toutes ces thérapies modernes sont souchées sur des connaissances chamaniques plus anciennes. Donc je suis heureux d'avoir fait les deux parce que ça m'a permis de faire le rapprochement.
Ce que je voulais dire pour terminer, ce que je trouve vraiment très chouette, c'est que sur ce festival, ces rencontres chamaniques, il y a cette ouverture où tout le monde est venu. C'est pas forcément réservé aux chamans, mais tout le monde est accueilli, tout le monde peut participer aux ateliers, tout le monde peut découvrir ces traditions. Et c'est ça que j'aime beaucoup ici sur ce week-end.
Vous avez observé qu'il y a des artistes aussi. Hein. Il y a 5 artistes qui exposent des œuvres, ce n'est que le début. Je pense qu'il y en aura de plus en plus qui seront inspirés par les pratiques ancestrales, le chamanisme. Il y a aussi beaucoup de musiciens, il y a des concerts. Il y a un festival du film, on montre des films sur le chamanisme. Enfin, nous sommes là dans un laboratoire. L'année prochaine, je pense que nous serons encore plus... nous allons étendre nos activités, que nous allons présenter au public, présenter à mon peuple. Cette année, nous avons eu environ 1500 personnes qui sont venues, si j'en crois les entrées, ce qui est formidable hein, pour... je suis sûr que l'année prochaine, il y aura de plus en plus de monde. Je vous dis, on va inviter d'autres traditions, d'autres... L'objectif premier, c'est le rassemblement des délégations de chamans. L'objectif numéro 2, c'est d'offrir à nos frères et sœurs en humanité nos pratiques, nos couleurs et nos différences. Mais le premier objectif, c'est vraiment de nous réunir, de débattre entre nous. Nous avons des débats, nous faisons des cérémonies entre nous avant que le festival commence. Et nous échangeons nos points de vue sur l'évolution de la planète et sur ce que nous avons comme information. Et tout cela dans l'intérêt, je pense, du peuple des humains.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.